La femme pauvre de Léon Bloy. Pro defunctis fratribus, propinquis et benefactoribus. À Pierre Antide Edmond, Bigand Caire, capitaine au long cours. La voici, enfin, cette femme pauvre que vous avez tant désirée sans la connaître, et que j'ai placée, comme il convenait, sous l'invocation des défunts. Je ne sais pas d'homme plus étonnant que vous, mon cher Bigand, et cela, je l'écrirai, quelque jour, le plus somptueusement que je pourrai. Votre amitié, que je n'avais pas prévue et que j'ai dû croire envoyée du ciel, est certainement une des rares merveilles qu'il m'aura été donné de voir sur terre. À l'exception de notre grand peintre Henri de Grou, qui donc est descendu aussi profondément que vous et d'aussi bon cœur dans ma fosse noire. Souvenez-vous que vous fûtes mon hôte quand j'habitais la maison sans nom, la maison de putréfaction et de désespoir que j'ai essayé de peindre et dont vous avez, j'imagine, emporté l'horreur dans la splendide et sanglante Asie. À vous donc, cher ami, ce douloureux livre qui me fut dicté par l'énergie de votre âme et qui serait sans doute un chef-d'œuvre si je n'en étais pas l'auteur. Que Dieu vous garde du feu, du couteau, de la littérature contemporaine et de la rancune des mauvais morts. Grand Montrouge, mercredi décembre 1897. Léon Bloy. Le texte du présent ouvrage a été revu sur un exemplaire de la première édition 1897, corrigé de la main de l'auteur et dont nous avons dû la communication à la bienveillance de Madame Léon Bloy. Première partie, l'épave des ténèbres. Ça pue le bon Dieu ici. Cette insolence de voyou fut dégorgée comme un vomissement sur le seuil très humble de la chapelle des missionnaires lazaristes de la rue de Sèvres en 1879. On était au premier dimanche de l'Avent et l'humanité parisienne s'acheminait besogneusement au grand hiver. Cette année, pareille à tant d'autres, n'avait pas été l'année de la fin du monde, et nul ne songeait qu'à s'en étonner. Le père Isidore Chapuis, balancier ajusteur de son état et l'un des soulographes les plus estimés du Gros Caillou, s'en étonnait moins que personne. Par tempérament et par culture, il appartenait à l'élite de cette superfine crapule qui n'est observable qu'à Paris et que ne peut égaler la fripouillerie d'aucun autre peuple sublunaire. Crapule végétale des moins fécondes, il est vrai, malgré le labour politique le plus assidu et l'irrigation littéraire la plus attentive. Alors même qu'il pleut du sang, on y voit éclore peu d'individus extraordinaires. Le vieux balancier, qui venait d'entr'ouvrir la crapaudière de son âme en passant devant un lieu saint, représentait, non sans orgueil, tous les virtuoses braillards et vilipendeurs du groupe social où se déversent perpétuellement, comme dans un puisard mitoyen, les relavures intellectuelles du bourgeois et les suffocantes immondices de l'ouvrier. Très satisfait de son mot, dont quelques dévotes qui l'examinèrent avec horreur s'étaient effarées, il allait, d'un pas circonflexe, vers une destination peu certaine, à la façon d'un somnambule que menacerait le mal de mer. Il y avait comme un pressentiment de vertige sur ce mufle de basse canaille couperosé par l'alcool et tordu au cabestan des concupiscences les plus ordurières. Une gouaillerie morose et superbe s'étalait sur ce mascaron de gémonie, crispant la lèvre inférieure sous les créneaux empoisonnés d'une abominable gueule, abaissant les deux commissures jusqu'au plus profond des ornières argileuses ou crétacées, dont la litharge et le rogum avaient raviné la face. Au centre s'acclimatait, depuis 60 ans, un nez judaïque d'usurier ponctuel, où se fourvoyait le chien-dent d'une séditieuse moustache qu'il eût été profitable d'utiliser pour l'étriage des roussins galeux. Les yeux au poinçon, d'une petitesse invraisemblable et d'une vivacité de gerboise ou de surmulot, suggéraient, par leur froide scintillation sans lumière, l'idée d'un nocturne spoliateur du tronc des pauvres, accoutumé à dévaliser les églises. Enfin, l'aspect de ce ruffian démantibulé donnait l'ensemble d'un avorton implacable, méticuleux et présent jusque dans l'ivresse, que d'anciennes aventures auraient échaudé et qui, dès longtemps, n'avivait plus son cœur de goujat qu'à l'assaut des faibles et des désarmés. Il n'était pas absolument sans lettres, cet excellent père Chapuis. Il lisait couramment des feuilles arbitrales et décisives, telles que La Lanterne ou Le Cri du Peuple, croyant fort à l'avènement infaillible de la sociale, et bafouillant volontiers, dans les caboulots, de pâteux oracles sur la politique et la religion, ces deux sciences débonnaires et si prodigieusement faciles, comme chacun sait, que le premier galfâtre venu peut y exceller. Quant à l'amour, il le dédaignait, sans phrase, le considérant négligeable. Et si, d'aventure, quelque autre docteur y faisait la moindre allusion sérieuse, aussitôt il bouffonnait et pendiculait en s'esclaffant. C'est pourquoi l'aimable Isidore assumait la considération d'un nombre incroyable de mastroquets. On ne savait pas exactement ses origines, quoiqu'il s'affirmât d'extraction bourgeoise et périgourdine. Extraction lointaine, sans doute, puisque le drôle était né, disait-il lui-même, au faubourg du Temple, où ses parents avaient dû pratiquer de vagues négoces très parisiens sur lesquels il n'insistait pas. Il se réclamait donc volontiers d'une ascendance provinciale, digne de tous les respects, et de collatéraux innombrables répartis au loin, dont il vantait les richesses, non sans flétrir avec énergie l'orgueil de propriétaire qui leur faisait méconnaître sa blouse glorieuse de citoyen travailleur. Effectivement, on n'en avait jamais vu un seul. Cette parenté problématique était ainsi à la fois une ressource de gloire et une occasion de déchaînement généreux. Mais il se déchaînait encore plus contre l'injustice de sa propre destinée, racontant avec l'emphase des arborigènes méridionaux la malchance d'années qui avait paralysé toutes ses entreprises et l'improbité fangeuse des concurrents qui l'avaient réduit à quitter la redingote du patron pour la vareuse du prolétaire. Car il avait été réellement capitaliste et chef d'atelier, travaillant à son compte, ou plutôt faisant travailler parfois une demi-douzaine d'ouvriers, pour lesquels il parut être le commandeur des croyants de la ribote et de la vadrouille éternelle. Le quartier de la Glacière se souvient encore de ces ajusteurs de rigolade à l'équilibre litigieux qu'on rencontrait chez tous les marchands de vin, où le singe, toujours ivre-mort, leur promulguait habituellement sa loi. La déconfiture assez rapide et suffisamment annoncée par de tels prodromes n'étonna que Chapuis, qui, d'abord, se répandit en imprécations contre la terre et les cieux, et reconnut ensuite, avec une bonne foi de pochard, qu'il avait eu la bêtise d'être trop honnête dans les affaires. Quant à la source désormais tarie de cette prospérité si éphémère, nul n'en savait rien. Un petit héritage de province avait dit vaguement le balancier. Certains bruits étranges, cependant, avaient autrefois couru qui rendait assez douteuse l'explication. On se souvenait très bien d'avoir connu cette arsouille avant les deux sièges, entièrement dénuée de faste, et trimballant d'atelier en atelier sa carcasse rebutée de mauvais compagnons. Subitement, après la commune, on l'avait vu riche de quelques dizaines de mille francs, dont il avait acheté son fonds. Si la sourde rumeur du quartier ne mentait pas, cet argent, ramassé dans quelque horrible cloaque sanglant, eût été la rançon d'un prince du négoce parisien inexplicablement préservé de la fusillade et de l'incendie, l'héroïque Chapuis ayant été commandant ou même lieutenant-colonel de fédérés. La très mystérieuse et très arbitraire Clémence, qui épargna certains factieux à l'issue de l'insurrection, s'était étendue sur lui comme sur bien d'autres plus fameux qu'on savait ou supposait détenteurs de secrets ignobles et dont on pouvait craindre les révélations. On le laissa donc tranquillement cuver son ivresse de naufrageur, et il ne fut pas même inquiété, ayant eu l'art, d'ailleurs, de se rendre parfaitement invisible pendant la période des exécutions sommaires. Un peu plus tard, deux ou trois tentatives d'interview, pratiquées par des reporters de l'ordre moral, ayant échoué d'une manière absolue devant l'abrutissement réel ou simulé de ce perpétuel ivrogne, on y renonça, et le père Chapuis, un instant presque célèbre, réintégra pour jamais l'obscurité la plus profonde. Il y avait ainsi sur cet homme tout un nuage de choses troubles qui lui donnait une importance d'oracle aux yeux des pauvres diables qu'il avait la condescendance de fréquenter et dont les âmes enfantines sont si aisément jugulées par tout aboyeur supposé malin. Le peuple souverain n'est-il pas devenu lui-même la volaille sacrée des superstitions antiques pour les aruspices de cabaret dont la police, quelquefois, utilise volontiers la pénétration? Au résumé, le vieil Isidore avait la renommée d'un sale bougre, expression générique dont la force ne sera pas contestée. Il appartenait sans aucun doute à cette lignée idéale de chenapans que la Providence institua dès l'origine pour l'équilibre des séraphins. Ne fallait-il pas cette vase au fleuve de l'humanité pour que le trouble et la puanteur de ses ondes pût l'avertir lorsque quelque chose tomberait du ciel? Et comment se pourrait-il qu'un cœur fût grand sans l'éducation merveilleuse de cet inévitable dégoût? Sans Barabbas, point de rédemption. Dieu n'aurait pas été digne de créer le monde s'il avait oublié dans le néant l'immense racaille qui devait un jour le crucifier. Malgré l'irrégularité de sa démarche, il paraît que le ci-devant patron balancier avait une affaire qui ne souffrait point de retard, car il ne s'arrêta pas au rendez-vous des ennemis du phylloxéra et dédaigna de répondre aux avances d'un ébéniste gueulard qui le hélait du seuil du cocher fidèle. Peut-être aussi avait-il déjà son compte, quoiqu'il fût à peine midi, car il ne se laissa tenter par aucun de ces comptoirs de délices où, d'ordinaire, il multipliait les escales. D'ailleurs, il grommelait en crachotant sur ses bottes, symptôme connu de hargneuses préoccupations que les camarades respectaient. Ayant ainsi repoussé toute consolation, il finit par arriver à sa porte, au milieu d'une triste rue de Grenelle qu'il habitait depuis sa faillite. Parvenu assez péniblement au cinquième étage d'un escalier suffocant où plombs et latrines répandaient leurs épouvantables exhalaisons, il heurta du coude, à la façon des ataxiques, une porte squameuse qui paraissait être la plus fâcheuse entrée de l'enfer. Cette porte s'ouvrit aussitôt et une vieille femme apparut, le regardant avec des yeux interrogateurs. « Eh bien, répondit-il, c'est une affaire arrangée, ça ne dépend plus que de la princesse. » Il entra et se laissa tomber sur une chaise quelconque, non sans avoir projeté dans la direction du foyer un jet de salive épaisse, dont la courbe inexactement calculée s'acheva dans la ficelle d'une carpette vermiculeuse qui garnissait le devant de la cheminée. Pendant que la vieille se hâtait d'essuyer du pied cette ordure, il grayonna surérogatoirement quelques doléances préalables. « Ah, nom de Dieu, c'est rien loin, ce cochon de Faubourg Honoré, et pas le rond pour prendre l'omnibus, sans compter qu'il a fallu poser pour l'attendre, ce peintre de mes pieds qui travaille pour les aristos. Il n'était pas encore levé à 10 heures, et pas trop poli avec ça. J'avais bonne envie de l'engueuler. Mais je me suis dit que c'était pour ta fille et que c'est pas trop tôt tout de même qu'elle nous foute un peu de galette depuis 6 mois qu'elle est à rien faire. Dis donc, vieille poison, y a rien à boire ici ?» L'interpellé lança vers le ciel 2 grands bras arides en accompagnant ce geste d'un très long soupir. « Hélas, mon doux Jésus ! Que répondrai-je à ce pauvre chéri qui se donne tant de mal pour sa malheureuse famille ? Vous êtes témoin, bonne Sainte Vierge, qu'il n'y a plus rien dans la maison, et que tout ce qui valait 2 sous a été porté au Mont-de-Piété, et que toutes les reconnaissances ont été engagées pour avoir du pain. Ah, mon aimable Sauveur, quand me retirerez-vous de ce monde où j'ai tant souffert ? Le mot « souffert », visiblement travaillé depuis des années, expirait dans un sanglot. Isidore, étendant la main, saisit à plein poing le jupon de la cafarde et la secouant avec énergie. « En voilà assez, hein ? Tu sais que je n'aime pas que tu me fasses ta gueule de jésuite. Si c'est une danse qui t'y faut, tu n'as qu'à le dire, tu seras servi illico et à l'œil. Et puis, c'est pas tout, ça. Où est-elle, ta bougresse de fille ? Mais Zizi, tu sais bien qu'elle devait aller chez la cousine Amédée, au boulevard de Vaugirard, pour tâcher moyen de lui emprunter une pièce de 100 sous. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas plus d'une heure. Quand tu as frappé, je croyais que c'était elle qui rentrait. Tu ne m'avais pas dit ça, vieux corbillard. Sa cousine est une salope qui ne lui foutra pas un radis, puisqu'elle m'a refusé à moi l'autre jour en me disant qu'elle n'avait pas d'argent pour les pochardises. Je la retiens, celle-là. Ah, bon Dieu, malheur de malheur, ajouta-t-il presque à voix basse, c'est Bibi qui se charge de lui sambarder sa boîte à punaises quand viendra la prochaine. Enfin, suffit, nous l'attendrons en suçant nos pouces, et nous verrons si Mademoiselle des Égards veut bien faire à ses vieux parents l'honneur de les écouter. Raconte-moi donc plutôt ta course de ce matin, dit en s'asseyant la doucereuse mégère. Tu dis que ça s'est arrangé avec ce monsieur Cacougnol ? Mais oui, 2 francs de l'heure et 3 ou 4 heures tous les jours, si la personne le botte, bien entendu. C'est un bon turbin, pas fatigant, qui ne l'éreintera pas, pour sûr. Il faut que ta mauviette soit chez lui demain à 11 heures. Ça se décidera tout de suite. Le chameau n'a pas l'air commode. Il m'a fait un tas de questions. Il voulait savoir si elle avait des amoureux, si on pouvait compter sur elle, si elle ne se saoulait pas de temps en temps. Est-ce que je sais, moi ? J'avais envie de lui dire « Il paraît qu'on ne m'aurait pas reçu sans la lettre du proprio. C'est un peu vexant tout de même d'avoir besoin de la protection de ces gens foutres qui se défient de l'ouvrier comme si c'était du caca. En revenant, j'ai patiné jusqu'à la Croix-Rouge pour taper un copain qui fait des journées de 15 francs dans la piété. Encore un qui n'est pas large des épaules, celui-là. Il m'a allongé 3 francs, et encore j'ai payé la seconde tournée. Il est temps que Clotilde nous vienne en aide. J'ai fait assez de sacrifices. Et puis, moi, d'abord, je suis pour la politique et la rigolade, et l'atelier commence à me faire de l'effet par en bas. Zut ! Ici, la vieille fit entendre un nouveau soupir de colombe sépulcrale et dit « 4 heures à 2 francs, 8 francs. Ça nous soutiendrait. Mais tu n'as pas peur que ce monsieur lui demande des choses trop difficiles ? Je te dis ça, mon Zidore, parce que je suis sa mère à cet enfant. Il faudrait lui faire comprendre que c'est pour son bien. J'en ai parlé ce matin. J'ai dit que c'était pour se faire tirer en portrait par un grand artiste, et ça lui a fichu le trac. Ah, la sacrée garce ! Est-ce qu'elle va encore nous la faire à l'impératrice ? Attends un peu, je vais t'en fourrer de la dignité. Quand on n'a pas d'argent, on travaille pour en gagner, et pour nourrir sa famille. Je ne connais que ça, moi. »
Une rafale de silence vint couper le dialogue. Il semblait que ces deux êtres eussent peur de se refléter l'un dans l'autre, en trahissant les sales miroirs de leur cœur. Chapuis se mit à bourrer sa pipe avec des gestes oratoires, pendant que sa très digne femelle, toujours assise, les bras croisés et la tête légèrement inclinée sur l'épaule gauche, dans une attitude piaculaire d'hostie résignée, se tapotait du bout des doigts les os des coudes, en laissant flotter son regard dans la direction des cieux. Le tabernacle était sinistre, éclairé par le livide plafond de ce ciel glacé de fin d'automne. Mais on put supposer que le soleil rutilant des Indes l'aurait fait paraître encore plus horrible. C'était la noire misère parisienne, attifée de son mensonge, l'odieux bric-à-brac d'une ancienne aisance d'ouvrier bourgeois lentement démeublée par la noce et les fringales. D'abord, un grand lit napoléonien qui avait pu être beau en 1810, mais dont les cuivres dédorés depuis les 100 jours, le vernis absent, les roulettes percluses, les pieds eux-mêmes lamentablement rapiécés et les éraflures sans nombre attestaient la décrépitude. Cette couche sans délices, à peine garnie d'un matelas équivoque et d'une paire de draps sales insuffisamment dissimulée par une courte pointe gélatineuse, avait dû crever sous elle 3 générations de déménageurs. Dans l'ombre de ce monument, qui remplissait le tiers de la mansarde, s'apercevait un autre matelas, moucheté par les punaises et noir de crasse, étalé simplement sur le carreau. De l'autre côté, un vieux Voltaire, qu'on pouvait croire échappé au sac d'une ville, laissait émigrer ses entrailles de varech et de fil de fer, malgré l'hypocrisie presque touchante d'une loque de tapisserie d'enfant. Auprès de ce meuble, que tous les fripiers avaient refusé d'acquérir, apparaissait, surmontée de son pot à eau et de sa cuvette, une de ces tables minuscules de crapuleux garnos qui font penser au jugement dernier. Enfin, au-devant de l'unique fenêtre, une autre table ronde en noyer, sans luxe ni équilibre, que le frottement le plus assidu n'aurait pas fait resplendir, et 3 chaises de paille, dont 2 presque entièrement défoncées. Le linge, s'il en restait, devait se fourrer dans une vieille malle poilue et cadenassée, sur laquelle s'asseyaient parfois les visiteurs. Tel était le mobilier, assez semblable à beaucoup d'autres dans cette joyeuse capitale de la bamboche et du désespoir. Mais ce qu'il y avait de particulier et d'atroce, c'était la prétention de dignité fière et de distinction bourgeoise que la compagne sentimentale de Chapuis avait répandue, comme une pommade, sur la moisissure de cet effroyable taudis. La cheminée, sans feu ni cendre, eût pu être mélancolique, malgré sa laideur, sans la grotesque encombrement de souvenirs et de bibelots infâmes qui la surchargeaient. On y remarquait de petits globes cylindriques protégeant de petits bouquets de fleurs desséchées. Un autre petit globe sphérique monté sur une rocaille en béton conchilifère, où le spectateur voyait flotter un paysage de la Suisse allemande. Un assortiment de ces coquillages univalves dans lesquelles une oreille poétique peut aisément percevoir le murmure lointain des flots. Et 2 de ces tendres bergers de Florian, mâles et femelles, en porcelaine coloriée, cuit pour la multitude, on ne sait dans quelque manufacture d'ignominie. À côté de ces œuvres d'art, se découvraient des images de dévotion, des colombes qui buvaient dans un calice d'or, des anges portant à brasser le froment des élus, des premiers communiants très frisés, tenant des cierges dans du papier à dentelle, puis deux ou trois questions du jour. Où est le chat? Où est le garde-champêtre? Etc. Inexplicablement encadrés dans des passe-partout. Enfin, des photographies d'ouvriers, de militaires ou de négociants respectables des deux sexes. Le nombre était incroyable de ces effigies qui montaient en pyramide jusqu'au plafond. Ça et là, le long des murs, dans les intervalles des guenilles, quelques cadres étaient appendus. Évidemment, on ne serait indigné de n'y pas trouver la fameuse gravure, si chère au cœur féminin, enfin seule, dans laquelle on ne s'arrête pas d'admirer un monsieur riche qui serre décidément dans ses bras, sous l'œil de Dieu, sa frémissante épousée. Cette gravure de notaire ou de fille en carte était la gloire des Chapuis. Ils avaient amené un jour un cordonnier de Charenton pour la contempler. Le reste, d'effrayantes chromolithographies achetées aux foires ou délivrées dans les bazars populaires, sans s'élever jusqu'à ce pinacle esthétique, ne manquait pas non plus d'un certain ragoût, et surtout de cette distinction plus certaine encore dont la mère Chapuis raffolait.